Madame Selek, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, s'il vous plaît, votre âge, votre profession, un peu, petit peu de votre parcours militant et tout? Comment vous aimez être identifié?
Ouais, c'est pas facile ça, parce que je peux dire que je suis une femme, un être humain qui veut être heureuse dans ce monde, qui se sent toujours comme une petite fille et qui veut être heureuse, voilà. Je crois que je fais partie du grand tableau de ce monde, avec tous ces malheurs du monde. Moi, j'aime beaucoup la vie. Et je ne veux pas une autre vie, mais je veux un autre monde. Et alors, j'ai maintenant 46 ans. Ça va être bientôt 47. Je suis de Istanbul, de Turquie. Et je viens d'une famille assez engagée, assez sensible pour les problèmes du monde. Qui mobilise, qui était très très active aussi dans les luttes de démocratie en Turquie. Donc j'ai grandi dans ce contexte-là et après je suis devenue une militante féministe antimilitariste et une militante pour la paix en Turquie parce qu'en Turquie il y a une guerre. Et entre-temps j'ai fait l'étude de sociologie, je suis devenue sociologue, chercheuse. Et j'ai fait plein de recherches. Et en dehors de ça, une parenthèse, je suis écrivain aussi. J'ai des livres, j'écris en littérature, mais pas que des romans ou des nouvelles. J'ai trois livres de contes de fées en Turquie. Un est traduit en français, mais les autres n'ont pas traduit. Et entre-temps, je suis sociologue et j'ai fait plusieurs recherches sur la prostitution, sur les groupes qui sont exclus dans la société, les transsexuels, les arméniens. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé sur le nationalisme, le militarisme, comment l'État-nation s'est construit en Turquie. Donc, tous ces sujets dérangeaient le gouvernement, disons. Et quand j'ai commencé à une enquête sur la question kurde, j'ai fait des entretiens, etc. Et ils n'ont pas voulu que je publie ce livre. Donc j'ai vécu une horreur. Peut-être on va parler après. Et j'ai fait 2 ans et demi en prison. J'ai été torturée. J'ai vécu une période très, très grave, très dure. Et après, je suis sortie de la prison. J'ai continué mes recherches. J'ai continué mon activisme, mon militantisme. J'ai continué à vivre en tous les sens du terme. Et en 2009, j'ai dû quitter la Turquie à cause de ce procès qui continuait. Et j'ai vécu 2 ans et demi, 3 ans à peu près à Berlin, en Allemagne. Et après, quand j'ai compris que mon exil va durer longtemps, je suis venue en France, d'abord à Strasbourg, où j'ai vécu 3 ans, à Lyon. Maintenant, je suis à Nice. Et je continue à écrire. Je continue à faire mes recherches, je continue à militer parce que tous ces problèmes sont des problèmes mondiaux. Et donc, patriarcat, le capitalisme, les problèmes de inégalité, la justice. Donc, je me suis trouvée aussi dans plein de luttes en France. Je suis dans le comité central de Ligue des droits de l'homme, je suis dans les organisations féministes, antimilitaristes, je fais partie des journaux. Par exemple, je fais partie d'un journal qui s'appelle Silence, qui est écologie sociale et qui est un journal très très important pour les luttes alternatives en France contre les projets inutiles et imposés, pour vivre autrement, pour créer des solidarités, etc. Et sur la non-violence. Donc je continue, je finis mon roman il n'y a pas longtemps et j'enseigne à la faculté de sciences politiques et je continue mes études, mes recherches à l'URMIS, au laboratoire de sociologie, unité de recherche sur les mobilités. Donc en France, j'ai trouvé un peu mon asile, disons, pour pouvoir continuer et ma réflexion et mes actions.
D'accord.
Voilà. Et maintenant, je suis français depuis une année. Voilà.
Vous venez de publier une lettre dans votre réseau social qui était bien diffusée, par exemple à Mediapart et d'autres sites,
Même dans le Nice Matin,
ouais. Oui, même dans le Nice Matin. Est-ce que vous pouvez faire un point sur votre processus maintenant? Parce que ça fait 20 ans depuis la première arrestation. Comment ça a changé par rapport à des années? Comment vous pouvez décrire votre situation en Turquie?
Ce n'est pas facile parce que juste avant vous, il y avait une télévision de France 3 qui a posé les mêmes questions. Et depuis 20 ans, je dois répondre toujours à la même question. Le problème, c'est que c'est très compliqué mon procès. C'est comme vraiment très kafkaïen. Et donc, moi, je ne comprends pas. Et comme je ne comprends pas, je dois expliquer quelque chose que je ne comprends pas. C'est ça un peu le problème. Mais on m'a arrêté, on m'a demandé de donner les noms des personnes que j'ai interviewées. Parce que j'avais interviewé des Kurdes qui m'avaient confié plein de leur expérience. Et j'avais écrit X, Y, Z, comme je n'avais pas écrit leur nom. Et un jour, alors je ne suis pas kurde, je suis turque. Donc ils ne voulaient pas qu'une turque fasse une recherche sur cette question. Moi, je critiquais le mouvement kurde aussi dans cette recherche. Mais j'invitais tout le monde de réfléchir, d'essayer de comprendre. Et donc, ils ne voulaient pas ça. C'était une époque, maintenant aussi ça continue comme ça, mais un délire de nationalisme, il ne faut pas réfléchir. Il faut toujours pleurer, crier et tuer. Donc, c'est quand une jeune sociologue qui sort, qui dit qu'allez, on peut réfléchir, on peut résoudre les problèmes. Donc, ils pensaient que je peux être un mauvais exemple. En même temps, je appartiens à un milieu, ma famille, un peu, pas très aisé, mais un peu aisé, disons, mais très intellectuel, très reconnu, surtout mon père, mon grand-père, ma mère et toute la famille. Donc, on dit en Turquie les Turcs blancs. Donc, je viens d'un milieu comme ça, et même si mon père était en prison 5 ans à cause de ses activités pour la démocratie en Turquie, c'est normal. Mais quand même, on est très reconnu. Et eux, ces intellectuels n'ont jamais parlé de la question kurde. Ils étaient vraiment très turcs. Ils parlaient de la démocratie, mais pas les questions kurdes, ou ils ne parlaient pas du génocide arménien, par exemple. Et moi, je suis sortie de là, j'ai commencé à faire une recherche. La police m'a dit, donne-nous les noms des personnes que tu as interviewées. On ne va pas dire, on ne va pas annoncer ça. Et tu ne vas pas publier cette recherche, et tu peux t'en aller maintenant, tu peux partir. Et après, on ne va pas parler, tu vas dire que je travaille encore, je n'ai pas fini, tu ne vas pas publier ça, mais ça va rester entre nous. Ils m'ont proposé ça. Je n'ai pas accepté, mais je n'imaginais pas la torture qui va être à ce point-là. Donc j'ai dit non, je ne vais pas faire ce que vous voulez. Et après, la torture a commencé. Et qui a duré longtemps, et j'ai pas pu utiliser même mes petits doigts, rien dans mon corps, une année à peu près. Et maintenant, je ne peux pas jouer le volleyball, par exemple. Je ne peux pas porter des choses lourdes. Mais donc voilà, et la torture, j'ai résisté, je suis arrivée à dire rien du tout. Donc ils étaient très fâchés qu'une jeune fille comme ça résiste à leur horreur. Après, je suis restée en prison 2 ans et demi. Et d'abord, ils m'avaient accusée de collaborer avec l'organisation terroriste, que je n'avais pas collaboré, mais comme je n'avais pas dit les noms. Et un mois, 2 mois après, quand j'étais en prison, sur la télévision, j'ai vu qu'ils m'accusaient d'une bombe qui n'existe pas. Il y avait un accident quelque part, et après ils ont dit que c'est une bombe, c'est Pınarcele qui a mis la bombe. Après, la population n'a pas cru. La population n'a pas cru. Plein de personnes qui vivent dans les rues, les STF, plein de gens que je connaissais déjà, ils sont venus devant les prisons. Il y a une solidarité super. Même les femmes qui travaillaient dans les bordels, elles sont venues avec leurs jarretières. Et beaucoup, beaucoup d'enfants de rue qui sont venus. Et c'est devenu très médiatique parce que c'est pas que les intellectuels, les militants qui me soutenaient, c'était vraiment des gens que j'ai touchés dans toute ma vie et je n'imaginais pas qu'ils seraient tout autour de moi. Mais vraiment, j'ai compris que c'était des vraies relations que j'ai tissées depuis longtemps avec eux. Ils m'ont pas laissé comme ça. Et donc, cette solidarité, et a fait que toute la population est devenue très sensible à mon procès. Et je recevais, je ne sais pas, 300, 400 lettres par mois. Même plus. Et j'avais 200 avocats dans une semaine. Donc, il y avait une solidarité énorme parce que tout le monde me connaissait. Et je n'étais pas médiatique, mais tout le monde savait que je n'étais pas une... J'étais une non-violente.
Oui.
Donc, après, j'ai été acquittée. Et 2 ans et demi après, j'ai été libérée de la prison. Et j'ai continué à publier, j'ai continué à militer en Turquie, en utilisant ma popularité aussi. J'ai fait des actions pour la paix, etc., avec les femmes. Et j'ai repris mes recherches, mes écritures aussi entre-temps. Mais en 2009, j'ai dû quitter la Turquie. Et après, comme je vous ai dit, que je suis venue en France. Et entre-temps, j'ai été acquittée 4 fois. Et toujours le procureur a fait l'appel. Ils ont envoyé le dossier à la cassation, à la cour de cassation. Et en Turquie, la cour de cassation, elle est très politique. Et c'est vraiment des fascistes, je peux vous dire. Eux, ils ont toujours cassé l'acquittement. Ils ont demandé la prison à vie. Mais c'est difficile de résumer comme ça 20 ans qui passent. Ma sœur, elle est devenue avocate pour moi. Elle a changé son métier. Elle faisait un autre métier. Elle a quitté, elle a repris ses études. Même si j'avais beaucoup d'avocats, mais... Et ma mère, elle est décédée de crise cardiaque dans ce processus. Elle était toujours avec moi, mais son petit cœur n'a pas pu résister. Donc, il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de peine, mais beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour aussi dans tous ces processus. Donc, j'ai pu rester debout. Après 4 acquittements, le dernier acquittement était en 2014. J'étais à Lyon à cette époque-là. Et après, le procureur a fait l'appel et il a envoyé la Cour suprême. C'est vraiment très compliqué. Et depuis 2014, nous attendons la décision de la Cour suprême qui va être définitive. Parce que comme c'est 4 fois cassation, maintenant, ils ont envoyé à la Cour suprême. Mais en même temps, il y a d'autres procès qui demandent les dommages de cet incendie. Des milliards. Il faut que je paye. C'est-à-dire ma famille. Donc, on attend, et entre-temps, le procureur de cette cour, il a fait une réquisitoire très mauvaise. Et nous avons, les avocats, ils ont eu les documents qui sont très négatifs. Donc, mon père, qui est mon avocat aussi, m'a appelé. Il m'a dit que, Pnal, il faut que tu fasses le bruit en Europe, ça peut nous aider. Parce que s'il y a une mauvaise décision, nous, ta famille, nous serons en danger, en difficulté. Et donc, j'ai dit, d'accord, papa, je vais faire le bruit, mais je n'avais pas la force. Je me sentais... J'avais peur de moi. Je suis une fille forte, mais je n'imaginais pas que... voilà, je ne me sens pas bien. Et même maintenant, en vous racontant ça, c'est trop déjà vu pour moi. Je répète depuis des années, des années, des années. Et vraiment, je veux passer à une autre chose. Je veux continuer à d'autres choses. Et ça revient. Mais en même temps, ma famille, ils sont à Istanbul, tout ça, voilà. Et maintenant, on attend les décisions. Il faut qu'il y ait des bruits qui viennent, de la pression qui vient de l'Europe. S'ils écoutent ou non, ça, c'est pas sûr, mais quand même, ça peut leur aider. Voilà, je suis dans une période un peu difficile.
Et quel est le rapport aujourd'hui entre la démocratie en Turquie? Ah, ça fait 20 ans et maintenant, est-ce qu'il y a un changement?
Parce qu'il
y a eu beaucoup de...
Il ne faut pas dire que ça commence maintenant. Il ne faut pas dire que ça commence maintenant parce que ce pays, il n'y avait jamais démocratie depuis mon enfance. Quand j'étais en prison en 1998, il y avait 45 000 prisonniers politiques. Donc, c'était beaucoup. Et il n'y avait pas ce gouvernement. Donc, depuis le génocide des Arméniens, il y a un système très répressif, très autoritaire, et depuis toujours, même avant moi. Donc, il faut voir toujours cette continuité. Mais en même temps, avec ce nouveau gouvernement qui est venu au pouvoir en donnant des espoirs de démocratie, d'ouverture, etc., c'est pour cela qu'il a eu beaucoup de voix. Eux, ils vivent des conflits intérieurs avec leur groupe et même au niveau transnational au Moyen-Orient. Donc, il y a une crise de pouvoir. Donc, ils sont devenus de plus en plus autoritaires. Et maintenant, la Turquie passe d'un tunnel d'horreur et tout est arbitraire. Et donc, il y a une peur générale. Et ce n'est pas comme seulement les personnes qui sont engagées pour la liberté, pour la démocratie, etc., qui se trouvent en prison, mais tout le monde. Tout le monde peut être en prison, même les gens de droite, même les gens qui ne sont pas très engagés, par leur statut très très facilement, parce que ça ne convient pas au gouvernement. Donc, il y a une peur générale. Voilà, en Turquie.
Pouvez-vous nous parler un peu sur votre nouvel roman que vous venez de publier? Vous venez de finir, c'est ça?
Je viens de finir.
Pas publier maintenant.
Quand j'avais écrit mon premier roman, La Maison du Bosphore, j'étais très 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 émue. Je l'avais fini en 2011. J'étais en Allemagne à cette époque. Moi, maintenant, c'est mon 10e livre. C'est-à-dire, j'ai 9 livres publiés en Turquie. Mais c'était mon premier roman. J'écris aussi des contes de fées. Un est traduit en français, mais les autres non. Aussi, j'écris des essais, des livres politiques, des livres sociologiques, etc., etc. Mais c'était mon premier roman. Je me sentais comme une jeune fille, une jeune adolescente qui a ses règles les premières fois, qui est toute rouge jusqu'au... Et après, c'est très bien marché. C'est traduit en italien, en allemand, en français, La Maison du Bosphore, je parle. Et maintenant, en France, elle est la version poche. Et j'ai eu des critiques super. Et j'ai fait plein de rencontres avec beaucoup de monde. Et j'ai eu une émotion. J'étais entourée d'une émotion. Donc, ça m'a donné le courage de continuer à écrire. Si j'avais de l'argent. Et je crois que je ne ferai que ça. Je suis très heureuse à l'écrivant. La littérature me rend heureuse. La sociologie, c'est comme une très, très proche amie. Mais la littérature, c'est mon amour. C'est différent. Alors, vous avez besoin des amis aussi, mais ça, c'est mon grand amour. Voilà. Donc, il y a 2 ans, à Nice, tout d'un coup, je me suis trouvée à écrire. Et j'ai remarqué que ça se passe à Nice, même à Riquier, dans le quartier Riquier. Mais autour des personnes très marginales, et ça se passe dans les rues, et un peu des gens foufous. Mais quand tu vois de loin, tu vois des gens marginales, etc. Mais quand tu entres dans le roman, tu vois des histoires super. Et je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire dehors, dedans? Qu'est-ce que ça veut dire normal? Qui est normal, vraiment, etc.
Et quand on va voir ce livre?
Alors, la mise en page est finie. Ils ont beaucoup aimé ce livre en Turquie. Et vous voyez, c'est bizarre. J'ai des procès et mes livres continuent à être publiés parce qu'ils ne veulent pas... Ils ne touchent pas plus pour l'instant mes livres parce qu'ils ne veulent pas que je sois une victime en tant qu'écrivain. Mais s'il y a une mauvaise décision, ils peuvent toucher. Donc le livre va être publié dans 2 semaines. Ouais. Je suis très très contente. Et la traduction française a déjà commencé. Donc c'est Liane Lévy qui va publier ce livre. C'est ma maison d'édition qui a publié parce qu'ils sont arméniennes, la maison du Bosphore, etc. Donc je suis très 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 contente. Je suis très émue aussi, comme j'étais quand il y avait mon premier roman. Mais j'ai un peu plus de confiance, je ne sais pas comment dire.
Ah, je peux imaginer.
Oui, mais je suis très émue parce que je veux bien... Elle s'appelle Azucena, le personnage qui est au cœur du roman. C'est une femme qui vient d'une famille espagnole. Qui ont venu après la retirada, après la guerre de l'Espagne,
oui.
Sa grand-mère. Et elle a vécu l'exil, elle a vécu tout ce que l'exil peut apporter, la pauvreté, tout. Et après, sa mère trouve un riche mari, elle se trouve dans une famille très normale, elle grandit entre les rêves et les histoires de sa grand-mère, avec les chansons Alas Barricadas, et son père de droite qui est architecture, qui est très très strict. Elle devient une banquière, une conseillère banquière à Azucena. Et c'est interdit de l'innommer Azucena, on le dit Suzanne. Et c'est seulement sa grand-mère lui dit Azucena. Et un jour, sa grand-mère meurt. Elle est très proche à elle. Et elle meurt. Quand elle meurt, Azucena pète les plombs. Et elle devient folle. Elle fuit. Elle va dans les rues. Elle vit beaucoup de problèmes. Elle prend un train et elle vit à Nice. À Nice, il se passe des choses extraordinaires.
Ah, je vois, j'ai déjà vu acheter ce livre. J'espère. Je peux avoir un autographe après.
Oui. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais c'est très important de pouvoir continuer à créer. Parce que résister, c'est important. Résister à ce monde, c'est important, à la violence. Mais résister ne suffit pas. Quand tu résistes, tu empêches à se soumettre. Non, tu résistes et tu ne te soumets pas, c'est bien. Mais il ne faut pas seulement résister à quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut aller plus loin. Il faut aussi créer. Parce que sinon, on veut toujours s'occuper de ces injustices. Donc moi, je veux bien continuer.
Ah, c'est bon.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.